Dieu vous bénisse. Amen. Bénisse richement. Ah, Rachel, ça va? Dieu te bénisse. Content de te voir. Aussi une bonne nouvelle du côté de Christine, la fille de la sœur Denise, qui a accouché aujourd'hui. À 6h52 d'un petit Kalis. K-H-A-L-I-S. Pureté et droiture, il paraît. Je ne connaissais pas ce prénom, Kalis. En tout cas, dans notre situation difficile que nous connaissons, Dieu nous fait grâce quand même. Il nous fait grâce de bonnes nouvelles. Et tout s'est bien passé, la maman et le bébé se portent bien. Nous allons lire dans Genèse chapitre 22. Les deux premiers versets. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve.
Amen.
Et lui dit, Abraham. Et il répondit, me voici.
Amen.
Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Isaac, va-t'en au pays de Morija. Et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Amen.
Amen.
Te remercions, Seigneur, pour la lecture de ta parole. Nous comptons sur toi pour nous instruire, pour le Saint-Esprit, pour venir et nous aider à sonder les choses de Dieu. Que cela nous parle et nous te remercions. Toi qui consoles nos cœurs, ô Dieu, tu nous donnes aussi, ô Papa, tu nous donnes aussi un autre côté de la joie. Nous te sommes reconnaissants pour tout cela, pour toutes les bonnes choses, pour toutes les mauvaises choses. Nous te remercions déjà pour le bien auquel nous pouvons nous y attendre. Parce que toi, tu ne promets rien sans accomplir tes promesses. Tu es le Dieu fidèle et toutes tes promesses, tu les accomplis. Nous te remercions de ce que tout se soit bien passé du côté de notre fille, du côté de notre sœur Christine. Et nous te remercions de la venue de cet enfant dans le monde. Le monde est difficile, c'est vrai, mais nous n'avons aucune crainte. Parce que si toi, tu le prends dans tes mains,
Amen.
Certainement que cet enfant fera les pas auxquels tu t'attends, ce qu'il fasse, qu'il te soit agréable tout au long de sa vie. Nous nous attendons à toi et te remercions encore. Te prions dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.
Amen.
Amen. Pouvons nous asseoir. Dieu met Abraham à l'épreuve. Et vous constaterez que l'épreuve dans laquelle Dieu met Abraham, c'est de lui donner la chose à laquelle il tenait le plus. Ce qui signifie que quand on offre une offrande à Dieu, comme dit David, ça doit être quelque chose qui nous coûte. Absolument. Ça doit être quelque chose, et non pas donner à Dieu quelque chose de superflu, dont nous n'avons peut-être plus besoin. C'est peut-être beau, mais nous n'en avons pas besoin. Je peux donner, je peux faire une offrande d'un million d'euros, mais si j'en ai un milliard, c'est quoi un million devant un milliard, hein? Par contre, celui qui n'a que 1000 euros et qui donne 900, il a donné plus que celui qui a donné un million. Vous voyez, devant Dieu, c'est comme ça. Et Dieu, il met à l'épreuve dans quel but? Dans un but bien précis. Et c'est valable pour nous tous. Le but, nous le voyons au moment où Abraham s'exécute pour offrir Isaac en sacrifice. Ben, Dieu le retient, il arrive, Dieu vient. Au verset 9, il dit, lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, de plus, Dieu n'aime pas trop qu'on des offrandes n'importe où ou n'importe comment. Il aime qu'on lui offre des choses là où il vous demande de le faire. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham, et il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien. Et voici le but de l'épreuve, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Donc il y a un but à cela. Dieu veut voir si nous, si, il veut voir la disposition de nos cœurs. Ceci a été écrit pour notre instruction, pour nous instruire, hein, et cela nous instruit quoi? Quand on parle de la foi d'Abraham, cela nous instruit sur la qualité de la foi d'Abraham. Cela nous instruit sur la profondeur, la grandeur de la foi d'Abraham, la qualité de foi qu'Abraham avait. Et Dieu attend de nous cette même foi. Quand il nous demande d'avoir la foi, il nous demande d'avoir une foi de la même qualité. Et ici, parce que quand Abraham a offert le sacrifice, l'auteur des Hébreux a voulu offrir le sacrifice. L'auteur des Hébreux nous dit, c'est par la foi qu'il a fait. Hébreux 11. Verset 17. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac. Dites amen à ça. Lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit, en Isaac, tu auras une postérité appelée de ton nom. Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. Aussi, il retrouva son fils, ce qui est une préfiguration. Et cette foi d'Abraham, Dieu veut que nous l'ayons. Dieu attend de nous exactement ce même genre de foi. Nous voyons dans Romains 4, verset 9. Ce bonheur, le bonheur du pardon des péchés, ce bonheur n'est-il que pour les circoncis ou est-il également pour les incirconcis? Car nous disons que la foi fut imputée à justice à Abraham. Quand donc lui fut-elle imputée? Était-ce après ou avant sa circoncision? Il n'était pas encore circoncis, il était incirconcis. En tant qu'incirconcis, il avait manifesté cette foi-là. Et il reçut le signe de la circoncision comme sceau de la justice qu'il avait obtenue par la foi quand il était incirconcis. Donc Dieu l'a vu juste et pour lui montrer qu'il a accepté sa foi, Dieu a mis un sceau. Et le sceau, c'est quoi? C'était l'incirconcision. Et comme aujourd'hui nous avons la circoncision du Saint-Esprit, le Saint-Esprit est le sceau de Dieu. Quand Dieu vous baptise du Saint-Esprit, ça montre que Dieu a agréé votre foi, il a accepté votre foi. Parce que Dieu est sensible à la qualité de la foi. quand le centenier est venu le trouver en faveur de, pour plaider en faveur de son serviteur qui était malade, hein, il a dit, bon, écoute, je viens avec toi. Le Seigneur lui a dit, je viens avec toi. Le centenier lui dit, non, toi, tu n'as pas besoin de venir chez moi. Je sais que moi, je suis un militaire. Quand j'ai des soldats sous mes ordres, quand je leur dis va, ils vont. Quand je leur dis viens, ils viennent. Toi, si tu dis un mot, mon serviteur sera guéri. La Bible nous dit que Jésus l'a admiré. Il est sensible à ça. Il a admiré la foi de ce centenier. Alors, nous lisons verset 12. Et le Père, pardon, on n'avait pas fini le verset 11. Il reçut le signe de la circoncision comme sceau de la justice qu'il avait obtenu par la foi quand il était incirconcis, afin d'être le père de tous les incirconcis qui croient, pour que la justice leur soit aussi imputée. Et le père des circoncis, qui n'est pas seulement circoncis, mais encore qui marche sur les traces de la foi de notre père Abraham quand il était incirconcis. Nous intitulerons le sujet ce soir « Sur les traces de la foi de notre père Abraham ». C'est là que Dieu veut nous voir. Il veut que nous suivions cette foi-là, cette trace de foi-là, sachant que Dieu, quand il vous promet quelque chose, quand bien même elle semble impossible, vous savez que Dieu est tout-puissant, qu'il est plus que capable de l'accomplir. Parce que là, vous pouvez avoir toutes sortes d'espérances ou quoi, mais vous ne pouvez peut-être même plus y mettre de l'espérance, mais Abraham, si on va plus loin, au verset 18, il a espéré contre toute espérance. Il crut et devint ainsi le père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, « Telle sera ta postérité ». Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Et si vous avez la foi d'Abraham, vous avez demandé une guérison que vous n'avez pas obtenue, vous avez demandé telle ou telle chose que vous n'avez pas obtenue, eh bien, ce n'est pas grave, vous savez toujours que Dieu est puissant. Il est suffisamment puissant que s'il doit ressusciter la personne, il la ressuscitera. S'il doit vous ressusciter, vous, il vous ressuscitera. Vous savez qu'il a cette puissance-là et vous allez de l'avant. Amen.
Amen.
Donc, c'est sur les traces, nous devons nous retrouver dans ce chemin de la foi, sur les traces de la foi de notre père Abraham. Quand il dit, je sais que tu crains Dieu, l'épreuve a carrément, l'épreuve dans laquelle Dieu l'a mis, a carrément rendu manifeste la réalité du cœur d'Abraham. Il faut croire du cœur. Quand vous croyez du cœur, alors... Nous allons parler des épreuves pendant les jours qui viendront, les épreuves. Enfin, on n'en fera pas longtemps, parce que Dieu éprouve. Il y a dans certaines traductions, parfois on dit que Dieu tente, mais Dieu ne tente pas. Mais dans ce cas-là d'épreuves, Dieu éprouve, les hommes éprouvent leurs semblables, et qui ça? Satan éprouve aussi. Mais Satan éprouve dans un autre but. Alors ça, on verra. Quand on parlera de l'humain, on parle de Dieu ici ce soir, de la foi d'Abraham, de la foi en Dieu. Donc, l'épreuve a rendu manifeste la réalité du cœur, ce qu'il y avait dans le cœur d'Abraham, et c'est valable pour nous tous, parce que je peux vous clamer ici tout de suite que j'ai la foi, mais quand Dieu me met dans la fournaise, c'est là que cette foi va réellement ressortir ou pas. Amen. C'est quand on est là dans la fournaise, ou bien au pied de la fournaise, c'est là que l'on voit réellement qu'il y a la foi en Dieu ou pas. Comme je dis toujours d'ailleurs, on le dit souvent, vous savez, quand Dieu éprouve notre foi, C'est une espèce de test d'ADN. Donc, Dieu veut voir si nous sommes, quand vous clamez le fait que mon père c'est Abraham, mon père c'est Abraham, vous allez à l'état civil et on vous demande le nom de votre père, vous dites que c'est Abraham, eh bien, pour voir si c'est votre père Abraham, vous devez prouver, on va vous dire, apportez-nous un test ADN. Amen. Et le test ADN vient, montre, l'ADN regarde, et l'ADN peut dire, il est à 99, ici c'est jamais 100%, mais avec Dieu c'est 100%. À 99,99% fils d'Abraham. Yes. Donc c'est vraiment un test, car les fils d'Abraham, ils sont sur les traces de la foi d'Abraham. Galates chapitre 3. Verset 6. Comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Amen. Et à ce moment-là, vous avez les bénédictions d'Abraham. Aussi, l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham, « Toutes les nations seront bénies en toi. » Ainsi, ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. La bénédiction d'Abraham, elle est à vous. Quand Dieu dit à Moïse, Dieu se montre à Moïse, il apparaît à Moïse près du buisson ardent, Exode 3. Israël est en esclavage devant un maître puissant, l'Égyptien, et l'Égyptien ne le laisse pas partir. L'Égyptien le tenaille dans son pays et lui fait faire des travaux pénibles tous les jours, et Israël n'arrive pas à en sortir. Avec cette puissance-là avec laquelle l'Égypte dominait Israël, eh bien, Dieu vient, il dit à Moïse, écoute, je vais les délivrer. Amen. Va dire ça aux enfants d'Israël. Vous vous imaginez, c'est comme si vous étiez pris en tenaille, n'est-ce pas, chez Poutine ou chez quelqu'un d'autre de très puissant, où vous ne savez pas comment sortir de là. On a tout essayé pour vous faire sortir de là. Dieu vous envoie quelqu'un pour vous dire, je vais te sortir de là. Qui ça? Dieu.
Amen.
Si on vous avait dit, peut-être un homme puissant du monde, vous allez voir, il y a peut-être... Mais maintenant, c'est Dieu, quelqu'un que vous ne voyez pas, en qui vous devez croire, qui a fait des promesses. Alors, dans Exode 3, verset 6, Dieu parle à Moïse, il appelle Moïse, Moïse, il répondit, me voici, verset 4. Verset 5, Dieu dit, n'approche pas d'ici. Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je ne suis pas n'importe qui, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. Quand Dieu dit, je suis le Dieu d'Abraham, essayez seulement d'imaginer. En fait, n'imaginez pas, parce que la foi, c'est une démonstration. Démonstration des choses que vous espérez. Donc, que Dieu vous, comme on a vu la semaine passée, que Dieu vous ouvre les yeux pour que vous puissiez voir cela. Voir ce que vous souhaitez. Donc, ce que vous espérez qui vous arrive, que vous puissiez voir cela. Pas seulement espérer que ça arrive, non. Mais vous voyez, c'est une démonstration des choses qu'on espère. Alors, Dieu dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phéréziens, les Éviens et les Jébusiens. Si on va dans Hébreux 11, on peut toujours y aller, et puis on va revenir là. Si on va dans Hébreux 11, on va voir que après que Dieu ait envoyé Moïse, ils sont sortis de l'Égypte par la foi. Il fallait croire vraiment que c'est le Dieu d'Abraham qui, 400 ans plus tôt, avait dit que je les délivrerai à main puissante. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois. Verset 27, c'est par la foi qu'il quitta l'Égypte, sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Hein? C'est par la, verset 29, c'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens qui tentèrent de passer furent engloutis. Avoir cette foi-là, capable de vous ouvrir la mer Rouge, de vous ouvrir le passage, de vous frayer le chemin. Hein? Il dit, je suis le Dieu d'Abraham. Et maintenant, tout ce que, quand Israël entend ça, Israël devait comprendre qu'il devait être sur les traces de leur père Abraham. Ça va? Et Dieu veut faire comprendre à Israël que s'ils font les choses comme Abraham, Abraham qui a obtenu quelque chose d'impossible, eux aussi peuvent sortir, même si ça paraissait impossible, tous jusqu'au dernier, hein, sortir de l'Égypte sans problème. Alors, ce que Dieu dit, à ce moment-là, qu'est-ce que vous faites? Posez les regards sur Abraham. Regardez Abraham, Ésaïe 51. Vous savez, cette fois-là, ça ne peut être que la main de Dieu, c'est un don de Dieu, nous dit Paul aux Éphésiens. Ésaïe 51, écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice. Vous voulez être juste, vous qui cherchez l'Éternel. Portez les regards sur le rocher d'où vous avez été taillé, sur le creux de la fosse d'où vous avez été tiré. Portez les regards sur Abraham, votre père, et sur Sarah qui vous a enfanté, car lui seul je l'ai appelé, je l'ai béni et multiplié. Donc, quand il dit je suis le Dieu d'Abraham, il veut qu'Israël comprenne qu'il comprenne exactement ce que cela signifie. Donc, Israël en chemin ne devait pas murmurer dans le désert. Si vous êtes fils d'Abraham, sachant que c'est le Dieu d'Abraham qui vous conduit, quoi qu'il arrive, ne murmurez pas. Quoi qu'il arrive, ne vous lamentez pas. Dieu, le Dieu d'Abraham, a la situation en main. Qu'importe ce que le gynéco a dit à propos de Sarah, quoi qu'il arrive, Abraham savait une chose, que ce Dieu-là qu'il avait appelé d'où en Chaldée était plus que puissant. Et Dieu s'est révélé à lui en tant que El Shaddai, le Dieu tout-puissant. Il est tout-puissant. Donc, Israël ne devait pas murmurer dans le désert. Aussi, moi de même, si je me retrouve aujourd'hui dans le désert, puisque je dois être sur les traces de la foi d'Abraham, que je manque d'eau, que je manque de nourriture, que l'eau soit amère, que quoi qu'il m'arrive dans ce désert, je ne dois jamais murmurer. On doit. Abraham, qu'est-ce qu'il faisait? Il rendait chaque fois gloire à Dieu. Et nous rendons chaque fois gloire à Dieu. Quoi qu'il arrive, il n'y a pas d'eau, on rend gloire à Dieu. Il n'y a pas de pain, on rend gloire à Dieu. Il n'y a pas de viande, on rend gloire à Dieu. Et il les a fait passer par le chemin du désert dans un but. Dans un but, ce n'était pas pour rien. Et il le dit. S'il a mis Abraham à l'épreuve, il n'y a pas de raison qu'il ne mette pas les fils d'Abraham à l'épreuve. Dans Deutéronome 8, dans Deutéronome 8. Verset 1er. Vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous viviez, que vous multipliiez et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert. Pourquoi? Afin de t'humilier et aussi afin de t'éprouver. Et je veux t'éprouver pourquoi? Pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur. C'est là que le cœur est rendu manifeste. Pour savoir quelles sont les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ces commandements. Parce que certains croyants, lorsqu'ils se disent croyants, lorsque les choses ne roulent pas comme ils le souhaitaient, ils abandonnent Dieu. Ils renient Dieu. Ils disent que Dieu, c'est un mythe. Ils disent que Dieu, c'est une idée comme ça. Ou alors, ils se donnent eux-mêmes une certaine idée de Dieu. Hein? Et tout ce qu'ils ont appris avant, tout ce qu'ils ont chanté avant, tout ce qu'ils ont glorifié avant, ils jettent ça. Ils n'acceptent pas ça. Ils vont coller des noms. Ils vont dire que c'est de l'imagination. C'est une histoire juive. Ce sont des mythes. La mer rouge qui s'ouvre, ce n'est pas un mythe.
Non.
Ce n'est pas un mythe.
Alléluia.
Vous savez, il n'y a que ce Dieu-ci qui est capable oui. de dire une chose pareille,
Amen.
De vous dire que j'ai fait ça.
Oui.
Que maintenant que vous croyez ou que vous ne croyez pas, c'est votre problème. Les autres ont leur Dieu. Leur Dieu, lisez le Coran n'a pas ça.
Non.
Dans le Coran, il n'est pas dit qu'un jour, leur Dieu Allah a ouvert la mer, quelle que soit la mer, soit mer morte ou mer rouge. Non, il n'y a que ce Dieu-ci, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, l'Éternel des armées. Il n'y a que lui qui peut faire ça. Vous ne trouverez jamais un livre de Bouddha qui vous dit qu'il y a, la nourriture qui est tombée du ciel. Ça, non, il n'y a que ce Dieu-ci. Amen. Il n'y a que lui. Et il ne se contente pas seulement du passé. Il vous dit des choses même du présent. Et il vous dit même les choses de l'avenir. Allah n'osera jamais dire ce qui se passera dans l'avenir. Mais le Dieu, notre Dieu, lui, il le dit. Non seulement il le dit, il écrit pour que nous puissions le lire. Nous le croyons. Ça peut sembler être impossible. Eh bien non, ce n'est pas impossible. Vous savez, si le monde lisait la Bible, il comprendrait ce qui se passe en Israël aujourd'hui. Il comprendrait. Rahab a compris ça. Écoutez ce que Rahab dit. Josué, chapitre 2. Rahab a compris ça. Moi, je ne comprends pas pourquoi le monde ne comprend pas ça. Quand on dit à Israël, non, résolution 242. Il n'y a pas de résolution 242 qui tienne. Au temps de Rahab, il n'était pas question de résolution 242 ou 348 de l'ONU. Il n'y avait pas d'ONU. Il y avait un Dieu. Et il y a toujours un Dieu aujourd'hui. Et Rahab dit ceci, dans Josué chapitre 2, verset 8, « Avant que les espions se couchent, Rahab monta vers eux sur le toit et leur dit, « L'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. » Alors, pourquoi est-ce que l'ONU discute aujourd'hui? L'Éternel, le Créateur, a donné ce pays à Israël. Ah, mais il y avait des Cananéens. Ça, c'est un autre problème. Si vous voulez discuter, allez discuter avec lui. Rahab, elle n'a pas cherché à discuter. Ah, c'est ma patrie, je suis né ici, j'ai toujours été là, je suis cananéenne, c'est à moi. Non, non, elle dit, je sais que l'Éternel vous a donné ce pays.
Amen.
Un point, c'est tout, fiston.
Amen.
La terreur que vous inspirez nous a saisis et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Car nous avons appris comment... Le monde aujourd'hui doit comprendre, doit avoir appris aussi. Nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge. C'est indiscutable, nous l'avons appris. Et comment vous avez traité les Jourdains, Sion et Og, que vous avez dévoués par interdit. Comment vous avez traité les deux rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sion et Og. Nous l'avons appris et nous avons perdu courage. Et tous nos esprits sont abattus à votre aspect. Alors, écoutez ceci. Car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu en haut, dans les cieux, et il est aussi Dieu en bas, sur la terre. Ouais. Comment est-ce que cette prostituée peut comprendre ça? Et les gens intelligents qui siègent à l'ONU, ils ne veulent pas comprendre ça. Le simple fait que ce peuple-là existe toujours aujourd'hui, c'est un miracle en soi. C'est un peuple que, dans beaucoup de générations, c'est un peuple qu'on a toujours été tenté d'anéantir, d'éliminer complètement. Mais c'est un peuple qui existe toujours. Et dans les armements, ils ne sont pas nécessairement toujours les plus forts. Ils ont été dominés par les Romains, ils ont été dominés par les Grecs, par les Babyloniens. Ils ont été dominés par beaucoup de gens. Mais ce peuple existe toujours. Hitler a essayé de les exterminer, il n'y est pas arrivé. Pendant de longues années, il les a exécutés, il ne savait même plus leur tirer dessus comme avec des balles, non. Il fallait maintenant faire carrément des chambres à gaz, les tuer en masse. Comme ça, il n'y en aura plus jamais. Il y en a toujours. Et ils sont toujours nombreux. Il ne m'est jamais arrivé d'aller à l'aéroport sans jamais voir un juif. Vous y allez à n'importe quelle heure à l'aéroport, soit chercher quelqu'un, soit accompagner quelqu'un, ou même si vous voulez y faire un tour, aller faire un tour. Il y a des avions qui viennent de nombreuses directions, de nombreuses provenances. Eh bien, il y a toujours des juifs. Dans le hall d'arrivée, là, vous en voyez toujours. Et habillés en juifs. Pour vous montrer qu'ils existent. Alors, quand vous voyez ça, vous dites, Dieu existe.
Amen.
Oh, Dieu est bon. Maintenant, Jacques nous dit que c'est par l'épreuve de notre foi, quand Dieu éprouve notre foi, que Dieu affermit notre patience. Parce que vous savez, la foi que nous avons, pour que nous puissions en arriver à la perfection en attendant Dieu, en attendant que Dieu agisse, il faut qu'on ait de la patience. Et la patience envers Dieu, c'est quelque chose. Parce que pour nous, 10 ans, c'est long, mais pour Dieu, c'est une seconde. Regardez, quand l'ange Gabriel visite Daniel, il dit à Daniel, tu sais, Dieu a réagi depuis longtemps. Regardez, dans Daniel chapitre 9. Verset 21, « Je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit et s'entretint avec moi. Il me dit, « Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. » Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie. » Regardez où il a commencé à prier depuis le verset 3, verset 4. Quasiment toute une page, ça faisait déjà peut-être une heure ou deux qu'il était en train de prier, je ne sais pas, mais il était en train de prier. Mais quand il a commencé la prière, la parole était déjà sortie. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer. Car tu es un bien-aimé, sois attentif à la parole et comprends la vision. Frère François, ça fait peut-être juste quelques minutes. Je vais vous montrer autre chose. Luc chapitre 1er. Être patient. Du temps de verset 5. Du temps d'Hérode, roi de Juda, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Vous savez que le sacerdoce se transmettait de père en fils, n'est-ce pas? Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Il n'avait point d'enfant. Donc, pour lui, dans sa famille, le sacerdoce s'arrêtait là. Il n'avait pas d'enfant. Parce qu'Élisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort. D'après la règle du sacerdoce, il n'y a pas de sort. Mais bon, eux, ils tiraient au sort parce qu'ils ne connaissaient pas la volonté de Dieu. Mais Dieu manifeste sa volonté dans le sort. Dieu ne va pas être surpris par vos tirages au sort. Jamais. Donc, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, « Ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. » Quelle prière? La prière, ta femme, Élisabeth, t'enfantera un fils. Or, ils étaient avancés en âge. Quand il a prié pour avoir un fils, Il avait prié quand il était jeune. Quand sa femme Élisabeth était en état d'avoir un enfant. Mais on vient lui annoncer que ta prière a été annoncée. La femme est vieille. Lui-même, il est vieux. Il le dit d'ailleurs. Il dit, mais ce n'est pas possible. Ça fait longtemps que, nous avons prié. Et aujourd'hui, on est comme deux frères et sœurs maintenant, elle et moi. Ce n'est pas possible. Tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance. L'ange lui dit, hein, il sera grand devant le Seigneur, Amen. Il ne boira ni vin ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Et il continue. Zacharie, c'était trop pour lui. Verset 18, mais il dit à l'ange, hey, frère, tu sais depuis combien de temps j'ai prié, mais c'est fini ça. À quoi est-ce que je reconnaîtrai cela? Car je suis vieux. Tu connais mon âge? Et ma femme est avancée en âge. L'ange lui répondit, je suis Gabriel. Je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. On t'annonce cette bonne nouvelle, toi tu doutes. Eh bien, tu seras muet. Ouais. Jusqu'à la naissance, donc comme ça, tu ne diras plus des bêtises. Et, quelqu'un qui perd la foi, ce serait bien que l'ange vienne le rendre muet. Parce que quand ils perdent la foi, ils commencent à dire des bêtises. Ils renient ce à dont ils ont cru, ce à quoi ils ont cru, et ils racontent et ils radotent. Là, tu regardes, tu dis, ça, c'est comme Job qui dit à sa femme, il dit, tu parles comme une femme insensée. Hein? Comme ça, vous pouvez aussi dire, écoute, j'espère vraiment que l'ange vienne et te rende muet pendant quelques minutes. Pour que ces bêtises-là ne sortent pas de ta bouche. Alléluia. Dieu reste Dieu. Amen. Sa parole, c'est la vérité. Amen. Ne discutez pas avec quelqu'un qui a perdu la foi. Ne discutez pas. Parce qu'il va dire des bêtises. Ne discutez pas. Laissez-le radoter. Vous commencez même à chanter pour lui montrer que vous ne l'écoutez même pas. Mais bon, priez pour lui ou priez pour elle. Amen. Amen. Donc, Jacques nous dit, l'épreuve de la foi, ça va produire quelque chose. La patience. Jacques, chapitre 1er. Parce que la patience a une œuvre à accomplir. Verset 2, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accompli sans faillir en rien, et surtout pas en parole. Amen. Sans que vous ne disiez des bêtises. Amen. Et la patience, c'est une victoire aussi. Hein? Dans Romains 5, quand les afflictions viennent, et tout cela. Verset 3, bien plus, nous nous glorifions même des afflictions. Ça ne m'enlève pas la patience. Sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance produit la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Maintenant, vous parlez de patience. Abraham a attendu 25 ans. Nous devons être sur les traces d'Abraham. Abraham a attendu 25 ans pour avoir le fils promis de Sarah. Pour avoir un fils de Sarah. Il a attendu 25 ans. Vous parlez d'une patience. Il y a une fille d'Abraham qui a attendu 18 ans pour obtenir la guérison. Pendant 18 ans, Luc 13, elle a été patiente. Et comme elle est fille d'Abraham, selon Galates 3, donc elle avait la foi d'Abraham. Dites amen à ça. Et ayant la foi, pendant 18 ans, c'est décourageant. Pendant 18 ans, moi, j'essaie de m'imaginer ça. Moi, je dis, mais c'est décourageant. Luc 13, verset 10. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Depuis 18 ans, on a chassé cet esprit-là. L'esprit n'est jamais parti. Elle a certainement été, elle a offert des sacrifices. Ça n'a pas marché. Mais elle était là, toujours. Elle était courbée, ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule, « Il y a 6 jours pour travailler, venez donc vous faire guérir ces jours-là et non pas le jour du sabbat. » Vous savez, l'homme méchant, ce chef de la synagogue, je ne sais pas depuis quand il exerçait son travail, ça faisait 18 ans qu'il voyait cette pauvre femme dans cette condition-là. Et au lieu de que ça le réjouisse de l'avoir guérie après 18 ans, après tant d'années, eh bien non, monsieur, il se plaint pour le sabbat. Encore, lui aussi, il devait être rendu muet. Bon.
Amen.
Hypocrite, lui répondit le Seigneur. Est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire. Et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan se tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat ? Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Pendant 18 ans, vous venez et pendant ces 18 ans-là, ne croyez pas que Satan, il se tait. Satan vous dit, ça, écoute, ça ne te fatigue pas. Hein? Et la requête, c'était toujours prier pour moi. Elle amenait toujours la même requête à la synagogue. Priez pour moi, mon mal de dos là. Ah, la sœur là aussi, bon. On se met à prier. Il y en a qui se mettaient peut-être à prier comme ça pour la routine. Mais elle, pendant 18 ans, elle priait. Nous sommes en 2024. Elle a commencé à demander ça en 2006. Donc, 2007, on fait la veillée ici. On fait la veillée, elle est toujours courbée. 2008, on fait la veillée, elle est toujours là, avec sa requête. Les premiers vendredis du mois, il y a réunion de prière, elle vient avec sa requête, elle met là, elle met sa requête. Pendant 18 ans, 1, 2, 3, vous comptez jusqu'à 18. À un moment donné, c'est décourageant. Hein? Quelqu'un peut se lever et dire, ah, frère, c'est gloire à Dieu, c'est la volonté de Dieu. Hein? Et puis il arrête là. Mais elle, mordicus, a dit, c'est une promesse. Alors, si l'enlèvement se fait maintenant, eh bien, je vais me redresser à l'enlèvement, je partirai. Si je me couche maintenant, eh bien, je vais me coucher avec mon mal de dos. Ben, j'ai demandé la guérison. Maintenant, s'il faut attendre la venue du Seigneur et que j'ai toujours... Eh bien, Seigneur, tu viendras, tu me trouveras avec ça ici. 18 ans. Le Seigneur descend et le Seigneur vient directement. Lui dit, il lui impose les mains. Il lui dit, tu peux t'en aller. Et l'autre, il dit, il parle de sabbat. Mais vous savez, 18 ans, ce n'est pas le record dans la Bible. Ce n'est pas le record. 25 ans d'Abraham, ce n'est pas le record. Hein. Ce n'est pas le record. Il y en a un, 38 ans. 38 ans. Dont il était même malade avant la naissance de Jésus-Christ. 38 ans. Jean chapitre 5. Ça, c'est quoi? Ça me rappelle Jacob, ça. Je ne te lâcherai pas.
Amen.
Mais laisse-moi m'en aller. Le matin, l'aube est là. Non. Je ne te lâcherai pas. Je veux ma bénédiction.
Yes.
C'est un fils d'Abraham.
Yes.
Je ne te lâcherai pas jusqu'à ce que tu m'aies béni. Mais tu as donné tes coups, non? Je ne te lâcherai pas. Jean chapitre 5. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. C'était sur la fête de Pâques. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Il y avait le mouvement de l'eau. Et hop, ceux qui étaient plus agiles, plus promptes, ils plongeaient. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier après que l'eau avait été agitée était guéri, quelle que soit sa maladie. Là, bien aimé. Là, c'est le fond signe. Hein. Tout le monde les yeux sur la piscine. Maintenant, si l'eau bouge, il faut avoir les réflexes de plonger. Certainement, peut-être, on l'avait amené là-bas. Il n'était pas arrivé là-bas tout seul, cet homme. On l'a amené. Peut-être que ceux qui l'avaient amené, eh bien, eux, ils n'arrivaient pas. Ou bien ils attendaient, ils ne voyaient pas cette agitation de l'eau. Ils rentraient chez eux. Ou alors, quand il y avait l'agitation, ils étaient distraits en tuant le temps. Ils jouaient peut-être aux cartes, je n'en sais rien, attendant que ça puisse. Vous n'allez pas avoir les yeux rivés sur l'eau pendant 24 heures sur 24. Ce n'est pas votre cas, c'est le cas de votre frère ou votre sœur, je n'en sais rien. Et le monsieur, finalement, il était abandonné là, à la piscine de Bethesda. On te ramène à la maison. Écoute, on te ramène à la maison puisque on est toujours battu d'avance. Il dit, moi, je reste ici.
Amen.
Il y a une guérison là.
Amen.
Mais comment est-ce que tu vas y arriver le premier? Comment je vais y arriver? Je ne sais pas. Mais je reste ici.
Amen.
Je ne quitte pas cet endroit
non.
Tant que je ne serai pas guéri.
Amen.
Espérant contre toute espérance.
Alléluia.
Sur les traces de la foi d'Abraham. Non, il dit, je ne quitterai pas. Si Jésus vient, eh bien, il me trouvera ici. Ah bon, oui, oui. S'il vient, il me trouvera ici. Attends-le alors. Je l'attends. Je l'attendrai. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier après que l'eau avait été agitée était guéri, quelle que soit sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. L'ayant vu coucher et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Ah, moi, je veux bien. C'est pour ça que je suis là. Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Je suis toujours battu. » Jésus le regarde, « Tu n'as pas besoin de plonger dans la piscine. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Sa patience envers Dieu a payé. Maintenant, je ne connais pas l'âge de d'autres, mais je ne sais pas quel âge l'autre avait, mais c'est possible que ce monsieur, 38 ans, ce n'est pas lui le recordman. C'est possible que ce n'est pas lui le recordman. Hein? Parce que dans Jean 9, nous avons un aveugle de naissance. Aveugle. L'aveugle de naissance. Jésus vit, Jean 9, Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question, « Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit, « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. » Ouais. Après ça, connaissant l'histoire, il va cracher à terre, il fait faire de la boue avec sa salive, et ainsi de suite, et il va guérir. Donc, cet homme, à la piscine de Bethesda, il aurait pu se décourager et demander à ses bien-aimés de le ramener à la maison. Ça fait 38 ans que je suis là. Vous voyez les enfants naître, vous les voyez même grandir, commencer à travailler, les petits-enfants à venir, eh ben, mais lui, il restait là. Eh ben, si Jésus vient, il me trouvera là, à la piscine de Bethesda.
Amen.
Ou alors, il me guérit maintenant. Et c'est lui qui décide.
Amen.
Et vous savez, il nous a dit, dans Hébreux 11, certains, que ceux qui avaient la foi, ils n'ont pas obtenu ce qu'ils avaient, ce qui leur avait été promis. Ils ont vu ça de loin. Ils ont été jusqu'au bout. Ils disaient, eh ben, je l'aurai quand même. Je l'aurai quand même cette chose. Quand ça, je ne sais pas. Dieu seul sait. Mais Dieu veut que nous ayons cette foi-là. La foi d'Abraham. Et comme il nous est dit, que nous puissions nous retrouver sur les traces de cette foi-là.
Amen.
Et votre foi est bien placée. Elle est placée en un Dieu véritable. En un Dieu tout-puissant. Prions le Seigneur. Père céleste, Dieu tout-puissant, la foi est un don de toi, qui vient de toi. Et nous te remercions pour ce don merveilleux, comme dit le cantique, don merveilleux qui nous vient des cieux, que connaît le cœur droit. Puisses-tu nous donner cette foi-là? Puisses-tu nous augmenter la foi si nous l'avons? C'était aussi la prière des disciples lorsqu'ils ont dit « Augmente-nous la foi ». C'est notre prière ce soir. Tu augmentes la foi de mon frère, de ma sœur, pour ceux qui sont présents et ceux qui ne le sont pas. Oh, que celui qui est à la piscine de Bethesda ne se décourage pas. Que celui qui est dans la synagogue, malgré le nombre d'années, qui ne se décourage pas. Qu'il sache tout simplement que tu es fidèle. Israël ne pouvait pas se décourager. Ils ont fait 400 ans, Dieu avait prévu 400 ans. Mais il les a libérés, il les a délivrés. Tu es Dieu, tu le feras. Tu es le Dieu de la résurrection. Ce que nous t'avons demandé, que nous n'avons pas obtenu, oh, tu nous permets par la foi de saluer cela de loin. Et nous savons qu'un jour, nous aurons toutes ces choses-là et nous en réjouirons encore davantage. Aussi, nous sommes heureux de te connaître, surtout heureux de connaître tes promesses, heureux de savoir que tu es Dieu fidèle, que tu ne mens pas, que tu tiens tes promesses, ô Dieu, et que jamais elles faillissent. Merci pour ce soir. Merci pour moindre les yeux de telle manière que nous puissions voir justement ces traces-là, les traces de la foi d'Abraham, pour que nous puissions les suivre, ô Dieu, et avoir cette foi qui l'a rendue si agréable devant toi. Et d'ailleurs, jusqu'aujourd'hui, tu te présentes toujours à tes enfants comme étant le Dieu d'Abraham, qui est le Dieu des vivants et non le Dieu des morts. Au nom de Jésus-Christ, nous te remercions. Et maintenant, nous voulons te remettre notre chemin du retour entre les mains. Que tu nous raccompagnes, que tu nous assistes, que tu bénisses chacun ici présent, que tu nous ramènes sans encombre dans nos maisons. Ô Dieu, reçois la gloire, la louange et l'honneur. En le précieux nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Dieu vous bénisse.